La ferme des Galets, elle a été réhabilitée en atelier d'artiste. Donc, je suis arrivée il y a un peu moins d'un an ici. C'est mon lieu de création, mon showroom. C'est là que je fais les maquettes, la recherche, etc. Donc, ici, il y a un peu toutes les pièces qui sont développées depuis plusieurs années. Donc, surtout en verre marin glace, qui est le verre breton que j'ai développé en 2015 à partir de microalgues et de coquilles. Là, en ce moment, je travaille avec de la coquille d'ormeau. Donc là, il y a un peu toute ma recherche. Donc il y a les collections pots, il y a les assiettes, les gobelets, les fioles, etc. Et il y a aussi le verre de Rouergue qui est présenté, qui est ce verre-là. Qui est un verre aveyronnais que j'ai développé en 2019 à partir de coquilles d'escargot, cendres de bois de chauffage et sable des berges du Lot. Voilà, donc là pour le week-end, on est installé un petit stand de boutique parce qu'on accueille sur rendez-vous pour les cadeaux de Noël. Voilà, c'est pour ça qu'il y a cette table en plein milieu avec les pièces qui sont en stock. Il y en a d'autres derrière, mais c'est pour ça qu'on a installé ça comme ça cette semaine.
Avec des matériaux quand même assez atypiques, des micro-algues, des coquilles d'ormeaux bretonnes par exemple. Comment ça t'est venu déjà cette idée d'utiliser ces matériaux et qu'est-ce que ça apporte à ton travail, à ce que tu fais ?
Comment ça m'est venu, c'est simplement que quand j'étais à l'école et en formation en design d'objets, je me suis beaucoup questionnée sur mon rôle en tant que futur designer. Et sur la manière de créer aujourd'hui. Et en fait, j'avais pas envie de dessiner des formes et faire ce qu'on appelle plutôt du stylisme et ensuite aller chercher des matériaux pour concevoir ces formes. Mais moi, j'avais un vrai besoin de partir de la matière première plutôt pour créer mes propres matériaux. Du coup, en fait, tout ça pour en maîtriser l'impact. Et à partir de ces matériaux, réfléchir à des objets qui fassent sens par rapport à leurs propriétés. Donc, j'ai un peu inversé la démarche. Je ne suis pas la seule, hein, mais en tout cas, je me retrouvais plus là-dedans et je me suis intéressée de manière assez intuitive aux ressources marines en Bretagne parce que des attaches à la Bretagne, parce que la découverte notamment du cuir de poisson qui a été un peu un déclencheur pour cette filière-là. Et voilà, ça a démarré vraiment comme ça et je m'intéresse beaucoup notamment à la question de la coquille et à toute la symbolique qu'il y a derrière le coquillage. Notamment cette idée qu'on considère les coquilles comme des déchets, mais qui finalement sont la seule matière qui reste réellement dans le temps. La coquille, c'est comme des strates géologiques, quoi. Le mollusque, il a mis des années à la constituer, sa coquille, ça a la mémoire de tout le milieu dans lequel il a évolué, le pH de l'eau, les oligo-éléments qu'il y avait dans l'eau, etc. Et pour moi, c'est très fort, ça, comme matière, et j'avais envie de la sublimer, en fait, pour faire mes propres matériaux. Donc, voilà, c'est un travail sur... la valeur de nos ressources naturelles, quoi.
Et tu dis qu'il y a un attachement aussi à la terre bretonne. Est-ce que toi, tu es bretonne d'origine ou...
Alors moi, je suis lorraine d'origine. Je suis née à Pont-à-Mousson, donc à l'autre bout. C'est plutôt le pays du verre, donc le lien, il est certainement là, même si en démarrant, je n'avais pas du tout prévu de faire du verre. Ça, j'y suis arrivée de manière... par la force des choses et la force de la recherche. Je suis toujours venue en Bretagne tous les ans en vacances. C'est un peu toujours la même histoire, hein, mais c'est la réalité. Et puis j'ai de la famille ici, donc voilà, ça s'est construit comme ça. Et par ailleurs, je suis artiste-chercheur en résidence au sein du laboratoire verre et céramique de l'Institut des sciences chimiques de Rennes, donc sur le campus de Beaulieu, à quelques pas d'ici. Du coup, c'était très important pour moi de m'en rapprocher le plus possible et d'ancrer ma pratique dans cette ville, en fait.
Alors, du coup, tu le disais tout à l'heure, tu développes des pièces artisanalement à travers ta marque Ostraco. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cette marque, comment elle est née, quelle est son identité, pourquoi ce nom aussi Ostraco, j'ai vu que ça venait d'Ostracon.
Alors un ostracon, c'est le nom qu'on donne aux tessons de céramique dans l'Antiquité. C'est un terme qui m'a beaucoup intéressée. Donc, en fait, les tessons de céramique étaient recyclés pour des usages du quotidien et c'est cette idée-là en fait, que j'essaye de véhiculer. Donc c'était un peu le post-it antique, on gravait sur ces tessons de céramique et puis on a aussi gravé à l'intérieur de coquilles d'huîtres notamment pour voter. Et ça a donné cette ambiguïté du terme, à la fois d'ostraciser quelqu'un et l'ostréiculture, etc., et toute la racine de la coquille. Donc il y avait aussi, enfin, il y a à la fois cette question donc, de la coquille d'huître qui a été le point de départ du projet, ça c'était symbolique, de cette valorisation de tessons pour un usage du quotidien, et la question de l'ostracisme par rapport aux déchets, de pourquoi on rejette ces matières-là et pourquoi elles sont considérées comme des déchets. Donc ça permet d'ouvrir le questionnement sur tout ça. Ostraco, parce que le co était beaucoup plus positif que le con. Et c'est la collaboration, voilà, c'est l'idée de la boucle aussi, du cercle qui est toujours présent dans la marque. Et en termes d'identité, s'il fallait la définir, c'est des objets les plus simples possibles en termes de forme. Je travaille jamais l'ornement. C'est-à-dire que je considère que la matière est un ornement à part entière. Donc j'essaye simplement de faire des formes les plus intemporelles possibles, les plus simples possibles. Et avec Stéphane, donc le souffleur de verre avec qui je collabore, on travaille plutôt sur des volumes en fait, de pièces. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont la lumière va interagir avec la pièce tout au long de la journée, la lumière naturelle, et comment elle va pénétrer la pièce, créer tel ou tel reflet en fonction de l'heure, de la saison, du taux d'ensoleillement, etc.
C'est des formes plutôt rondes, je trouve, plutôt...
Le co était important, puis cette question du cercle, parce que, bon, déjà, il y a deux choses, c'est que le verrier, quand il est en train de souffler, il est tout le temps en rotation, on ne peut jamais s'arrêter de tourner pour faire une pièce, parce que sinon, elle se désaxe. Donc, c'est souvent... quasiment tout le temps des formes circulaires, sauf si on utilise un moule d'une autre forme, mais on a cette forme de révolution tout le temps, on est tout le temps en train de tourner. Voilà, ça c'est la première chose, et du coup y avait cette idée aussi du cycle par rapport à la matière, parce que le verre c'est recyclable à l'infini, donc on n'a aucune perte de matière, et on peut le soir, quand on a des ratés, qu'on veut faire des essais, qu'on a de la casse, on peut réenfourner le verre cassé et le réutiliser dès le lendemain matin, quoi. Ça c'est super important.
Donc il y a aussi cette idée de réemploi.
Alors je le revendique pas, parce que pour moi, ça doit être le cas de tout le monde et intrinsèque à toutes les démarches. Donc, je fais attention avec ça. En tout cas, moi, c'est dans les valeurs de mon travail de pouvoir être le plus économe possible. Il ne faut pas non plus se voiler la face. Le travail du verre est énergétique. Il faut de l'énergie pour pouvoir faire le verre. Malgré tout, ça reste un matériau qui est très intéressant sur plein d'aspects, parce que justement il peut se recycler à l'infini, il est sain pour l'homme, pour l'environnement, il n'y a pas de transfert de molécules ou ce genre de choses, contrairement au plastique. Donc c'est un matériau qui est très riche et très, très sain, je pense. Et après on essaye de développer au maximum des techniques de soufflage qui permettent d'économiser l'énergie au maximum, donc on essaye d'être le plus intelligent possible là-dessus. Et d'être le plus éco-responsable possible, s'il fallait le dire, quoi. Mais en tout cas, moi, je considère qu'utiliser des ressources qui sont des déchets et qui sont à valoriser, il faudrait que tout le monde le fasse un maximum, en fait. Je le mets en avant autant que le reste, en fait, autant que le travail de la main, autant que la poésie du projet, autant que le travail de la couleur, de tout. C'est un élément parmi tant d'autres. Et il est hors de question d'en faire un élément marketing.
Fait de la géoverrerie, si j'ai bien compris. Déjà, pour commencer, est-ce que tu pourrais peut-être expliquer qu'est-ce que c'est ?
Alors, la géoverrerie, c'est un terme que j'ai posé sur ma démarche. En fait, ça n'existe pas, en fait, mais c'est l'idée que on puisse faire le lien entre la géographie et le verre. Et en fait, qu'en fonction de la provenance des matières que j'utilise pour fabriquer mes verres naturels, on se rend compte qu'il y a un retour finalement à l'imaginaire et à ces paysages-là d'origine, notamment par la couleur que j'obtiens, les effets dans la matière, les cordes, les bulles, la texture, etc. Et voilà, donc c'est ce que j'ai voulu exprimer par ce terme. Et dans ma géoverrerie, je développe en fait toute une palette de verres par région. Sur des territoires qui m'intéressent. Ici en Bretagne, dans l'Aveyron l'année dernière, il y a d'autres choses qui sont en développement sur les îles du Ponant, par exemple, la vallée de la Moselle en Lorraine, etc. Donc, c'est ça l'idée de la géoverrerie.
Ça fait combien de temps que tu fais de la géoverrerie précisément ?
Alors, j'ai démarré ce projet en 2014. Dans le cadre de mon diplôme à l'école Boulle en design d'objets, j'ai une formation de designer à l'origine. À la sortie de l'école, je me suis consacrée pleinement à ce projet de recherche et au travail du verre. Donc ça fait 6 ans, un bon moment déjà finalement, que je développe ça. Et puis ça se met en place au fil des années. Hein. C'était pas comme ça il y a 6 ans, mais en tout cas... ça fait depuis 2014 que je m'intéresse à cette question de la valorisation des ressources locales, en tout cas.
Tu disais que tu as fait l'école Boulle. Déjà, qu'est-ce que ça t'a apporté par rapport à ce que tu fais maintenant ? Est-ce que c'est là que tu as commencé à travailler sur le verre ?
C'est une bonne question. Le verre, il est né pour mon diplôme. Donc, c'était vraiment les tout petits fragments de trucs. C'était même pas fait dans des fours verriers. En tout cas, le verre tel qu'on le voit là aujourd'hui, il n'existait pas au moment de l'école. C'est vraiment apparu quelques mois après mon diplôme. Je pense que le cursus à l'école Boulle et les rencontres que j'ai pu y faire pédagogiques, ça m'a surtout apporté une manière de penser et de toujours se demander pourquoi, en fait. Pourquoi on fait ça ? Quel est l'impact derrière ? Quel est mon rôle en tant que designer ? Beaucoup plus que on en parlait au début d'un style ou de quelque chose comme ça. Ça m'a permis de construire ma démarche et d'être sûre de là où j'avais envie d'aller par rapport à qui j'étais, en fait. Je pense que c'est ça le parcours à Boulle ça m'a forgé, quoi, en tant que designer. J'ai un parcours qui est au début, parce que plus trop maintenant, mais qui a été très classique, c'est-à-dire que j'ai fait un bac art appliqué, et puis après un BTS, et puis après un DSAA. C'est vraiment, pour ceux qui connaissent, c'est le parcours on ne peut plus classique, surtout que je suis restée dans la même école, etc., donc je n'ai pas trop bougé. J'ai fait mon bac art appliqué à Nancy, au lycée Henri Lauritz, et ce qui m'a... toujours intéressée, c'est la matière et les matériaux. Je crois que j'ai une famille d'artisans, donc forcément, je me suis toujours questionnée sur ça vient d'où, qu'est-ce que c'est, comment ça, le bois, comment ça pousse. Mon grand-père était menuisier. Quelle essence de bois, la peinture, qu'est-ce que c'est. J'ai le textile aussi beaucoup. Donc, je me suis toujours questionnée d'abord sur la matière, et c'est ça qui m'a amenée aux arts appliqués, plus qu'aux beaux-arts, peut-être parce que ce côté technique qui m'intéressait beaucoup, de comment on fait les choses. Et c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui et que je suis en train de créer mes propres matériaux, finalement. Ouais, je pense que ça vient de là.
T'es artiste-chercheuse ? Ça consiste en quoi exactement ce statut d'artiste-chercheuse ?
Excellente question, et c'est intéressant de poser le terme de statut parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas franchement reconnu, mais en tout cas, c'est ce que j'essaye de revendiquer. Artiste-chercheur, disons que ça consiste à... C'est considérer que la pratique artistique peut avoir un rôle dans la contribution scientifique. Donc moi, j'essaye de défendre l'idée que par ma pratique et par la création d'objets, on peut faire avancer les choses d'un point de vue scientifique, au même titre qu'un écrit et qu'une publication. Donc évidemment, il y a aussi de l'écrit beaucoup à côté, mais c'est cette idée qu'on puisse faire les deux et qu'il y a un réel lien entre l'art et la science. En fait, il y en a toujours eu un, simplement on a fini par partitionner un peu trop les choses et à les séparer, mais art-science, ça a toujours été très lié. Donc, je consacre 30% de mon temps à la recherche au sein de ce labo, et ça s'amplifie un peu là en ce moment. Donc, c'est ça.
Ce travail de recherche, ça consiste en quoi ? Qu'est-ce que tu fais exactement ?
Ma recherche en géoverrerie, c'est de formuler mes propres recettes de verre à partir des ressources locales. Donc ça consiste à faire beaucoup de travail de terrain à chaque nouveau verre que je veux développer, donc dans la région en question. Une fois que mes matières sont récoltées, je suis au laboratoire et je cuisine, en fait, hein. Je fais de la composition, donc j'assemble ces matières entre elles pour obtenir du verre. C'est ça la recherche en chimie du verre. Et puis dès que le verre est OK, travaillable, etc., je peux passer en production et créer mes pièces.
Pour revenir du coup à ton atelier dans lequel on est là actuellement, qu'est-ce que tu fais exactement ici ? Est-ce que c'est là que tu expérimentes ?
Alors l'élaboration des créations, elle se fait un peu ici, un peu au labo, beaucoup au labo quand même. Ici, c'est très difficile à expliquer. Je fais tout et rien. Non, je fais tout. C'est-à-dire que j'ai une entreprise, quoi. Donc, c'est mon bureau. Il y a aussi tout ce qui est communication, juridique, comptabilité. C'est pas très glamour, mais il faut aussi faire tout ça, quoi. Donc, c'est vraiment mon lieu de concentration, quoi. C'est ma bulle. Enfin voilà, il y a une serre au milieu, c'est pas pour rien. C'est mon lieu de travail, de réflexion, de construction. C'est là que j'avance, que j'essaye de mettre en place les choses, que je passe mes milliers de coups de téléphone. C'est ça qui se passe ici. Puis c'est aussi un lieu où je prends soin de présenter mes pièces et mes recherches parce que ça me nourrit au quotidien, parce que moi-même, je teste de savoir si cette question de ramener le paysage dans l'habitat, je l'éprouve ici au quotidien parce que je suis entourée des pièces, donc j'observe comment elles se comportent, etc. Donc je cohabite avec tout ça. Et il y a Clémence aussi avec qui je travaille 2 jours par semaine qui m'accompagne sur Ostraco. Qui est là avec moi donc 2 jours et on fait aussi des expérimentations, on met en forme certaines pièces, on fait de la pâte de verre, on met en forme le plâtre de mer, c'est un autre matériau que j'ai développé au début, on fait les emballages, les expéditions, enfin voilà, tous les aspects pratiques, quoi.
Tu travailles avec des chefs, donc tu leur vends des produits de ta marque. Où tu les fabriques sur mesure. Comment ça se passe, tu en as parlé vite fait avec une collection, quand un client a une demande spécifique et que du coup tu te lances dans une fabrication sur mesure. Et puis, comment tu as débuté justement cette collaboration avec des chefs ?
Comment ça se passe ? C'est valable évidemment pour les chefs, mais pour d'autres clients. En fait, le travail de sur mesure, finalement, il est assez... simple à déclencher, on va dire que c'est pas forcément facile à mettre en œuvre, mais le verre est tellement magique dans son comportement, c'est-à-dire qu'on parle d'un liquide, donc il faut imaginer qu'on peut tout faire avec le verre, donc on peut le souffler, on peut le thermoformer, on peut en faire du fil, on peut en faire de la mousse, on peut en faire plein de choses, de la plaque, du volume, c'est infini, donc tout est possible en termes de sur-mesure. Après, on a la chance, justement, c'est pour ça que le travail de la main, c'est important de le garder, parce qu'on a la chance d'être à une échelle où on peut mettre en œuvre facilement les projets et faire tout de suite des essais. Et ce que je disais sur la recyclabilité de la matière, ça nous permet de faire les essais sans avoir peur de perdre de la matière, parce que le soir même, on peut les refondre si on n'en est pas satisfait, quoi. Donc, en fait, tout est... tout est un peu possible. Après, le lien avec la gastronomie, il est très important pour moi parce que mes matières premières, c'est des matières qu'on consomme. Donc finalement, le lien avec le ventre, il est très fort, quoi. Donc j'essaye de développer beaucoup les collaborations avec les chefs. Et comment ça se passe, c'est assez simple. C'est soit une envie d'un objet un peu emblématique sur la table, c'était le cas avec le restaurant Racine. J'ai travaillé avec Virginie Giboire, je lui ai dessiné 2 pièces, un galet et un gobelet pour le restaurant. Soit une envie de créer un plat et d'avoir un dialogue entre le contenant et le contenu pour parler du producteur qui est derrière. Ça, c'était le cas avec Rollinger et le producteur d'Ormeau du Finistère. Là, ça a fait l'objet d'une collection qui porte son nom, donc une collection Ostraco qui s'appelle la collection Rollinger. Et c'est la grande assiette creuse, le bol et la fiole qui est à côté là. Donc mon activité, effectivement, c'est ces 2 facettes-là plus un travail de sculpture en parallèle.
Et alors, justement, quand tu as des commandes sur mesure comme ça, est-ce que tu gardes quand même ton identité ?
Mon identité, elle est simplement dans la matière. Moi, cette question du dessin, en fait, je pense que c'est là que ça bloque. C'est que moi, Ostraco, pour moi, il n'y a pas de dessin. Donc, j'ai pas finalement, la forme extérieure m'intéresse c'est pas qu'elle m'intéresse pas, c'est que c'est avant tout la matière. Donc mon identité, elle est dans la matière, et du coup, je peux pas la perdre, puisque c'est ma matière que je développe dans tous les projets. Donc on va dire que le dessin extérieur, la courbe, finalement, c'est un détail parmi d'autres, quoi. Donc non, je perds pas du tout mon identité, bien au contraire, parce que un chef qui sublime un bol ou une assiette ou un galet pour un amuse-bouche, etc., par un plat magnifique à l'intérieur, moi je suis ravie, quoi. C'est le mieux que je puisse obtenir, finalement, parce que c'est quelqu'un en face qui a parfaitement compris ce que je faisais et qui lui à son tour le sublime par ce qu'il va mettre dedans, quoi. Donc c'est super.
En période de fête, est-ce que tu pourrais expliquer comment on peut faire si on a envie de commander une de tes pièces, par exemple ?
C'est assez simple, en fait. Ça peut se passer sur Instagram, sur Facebook, ou de préférence directement sur mon site en ligne. Donc il y a une boutique en ligne. Il y a deux options. Soit vous pouvez prendre rendez-vous avec moi et je vous accueille à la ferme des Galets, soit le fameux click and collect. Donc c'est possible de commander en ligne et de venir retirer directement sa commande sur place pour se rencontrer et puis éviter aussi les frais d'envoi. On est activement présente jusqu'au 23 décembre. Donc pour ceux qui sont sur Rennes, il y a tout à fait possibilité d'être au dernier moment pour venir retirer sa commande. Toutes les pièces en stock sont à vendre, c'est-à-dire les portes. Donc ça va du porte-couvert, le premier prix c'est donc 15€ pour le porte-couvert, porte-baguette, jusqu'aux vases de différentes tailles. Donc tout est en stock, il y a des gobelets, gobelets hauts, gobelets bas, la collection Rollinger, bien sûr, la fiole, l'assiette et le bol. Voilà, puis après la série des vases et des plateaux.